Voilà, je vais lire directement le passage de ce matin, qui se trouve dans Matthieu 14, au verset 22. Et c'est le passage dont j'ai envie de vous parler ce matin, vers lequel je crois Dieu m'a conduit aussi. Donc Matthieu, chapitre 14, au verset 22, verset 22 à 33. Et c'est un passage que tout le monde connaît bien, je pense. Aussitôt après, juste après la multiplication des pains, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Oula. On va éteindre ça parce que...
C'est censé faire office de chronomètre.
Voilà, je vais aller au feeling. Je recommence alors. Donc aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Et quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt Jésus tendit la main. Il l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Voilà. À travers ce texte, ce que je vous propose de voir, c'est un petit peu trois piliers, trois fondations, trois vérités bibliques sur lesquelles se fonder face à la tempête. Et le premier, ça sera la confiance, faire confiance à un Dieu qui prend soin de nous, qui est bon. La deuxième chose, c'est nous appuyer sur la puissance qui vient de Dieu quand on est dans la tempête. Et la troisième, c'est compter sur la grâce de Dieu. Voilà, faire confiance dans la bonté, ensuite la puissance et ensuite la grâce. Et c'est des choses simples, c'est des choses qu'on connaît bien, mais c'est ces choses-là dans lesquelles il faut être, je crois, profondément ancré au moment de la tempête, avant la tempête, pour être prêt quand la tempête arrive, et pour tenir ferme dans la souffrance ou dans l'épreuve. Alors, le passage qu'on vient de lire se situe juste après l'un des miracles les plus étonnants que Jésus fait. Il y a la multiplication des pains. Succès énorme, excitation énorme, tout le monde est content, les disciples sans doute aussi, et la foule se dit « ça y est, on a trouvé celui qui va nous libérer peut-être des Romains, je ne sais pas. En tout cas, on a trouvé celui qui va être notre roi. » C'est dans le passage parallèle dans Jean qu'on trouve ça, où Jésus, sachant qu'ils allaient venir pour le faire roi, se retira sur la montagne. Donc, les choses n'allaient pas se passer comme Jésus le voulait. Plan d'urgence, changement total de situation. Il envoie les disciples à la mer, sur le lac de Galilée. Et ces disciples qui étaient peut-être en train de se dire « Ah, c'est en train de bien tourner aujourd'hui là, avec ce miracle. Qu'est-ce qui va se passer ?» Peut-être qu'ils se faisaient leur petit plan dans leur tête. Jésus va devenir roi, on sera ministre. Non, je ne sais pas ce qu'ils imaginaient. Mais en tout cas, le succès devait certainement les griser un petit peu. Et voilà que sans transition, ils se retrouvent sur le lac. Alors, le lac, il faut savoir, le mot lac en grec, c'est le mot d'une fameuse émission de télé qui passe aussi tous les vendredis soirs depuis très longtemps. C'est Thalassa. Hein. Et Thalassa, c'est le mot pour lac, c'est le mot pour mer. Sauf que dans la Bible, Thalassa, ce n'est pas un mot forcément positif. C'est un mot qui symbolise plutôt un endroit qui symbolise plutôt l'hostilité, un endroit de difficulté. D'une part, la Thalassa, c'est là où règnent les forces de l'opposition dans la Bible. C'est là où on trouve dans la mythologie hébraïque, par exemple, le Léviathan. Hein, Job dit que c'est au fond des mers qu'il y a ce monstre marin qui habite donc le fond des mers, ça c'est dans Job 7. Et puis c'est aussi la mer, c'est aussi l'endroit où s'exerce le jugement de Dieu. Et on le voit par exemple avec le déluge. Hein, le déluge, les eaux qui emportent les gens, sauf Noé qui lui, au-dessus, qui ne coule pas, les autres sont en dessous. Il y a la mer Rouge, pareil, le peuple d'Israël traverse, mais le pharaon et son armée est emporté par la mer. On trouve ça un peu partout dans l'Apocalypse, par exemple. Il y a un verset où un ange puissant prend une pierre semblable à une grande meule et la jette dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. » Et puis il y en a un autre, on y reviendra sans doute tout à l'heure, c'est Jonas aussi. Jonas, quand il est l'objet de la fureur de Dieu, il est jeté à la mer. Hein, et c'est là qu'il subit quelque part le jugement aussi. Donc la mer, le lac, c'est un symbole de lieu où il y a une hostilité. C'est un endroit où on vit des choses difficiles. Donc ce n'était pas vraiment une thalassothérapie hein, que les disciples allaient faire là. Hein. C'était peut-être une thérapie aussi, mais ce n'était peut-être pas la thalassothérapie. Voilà. Et donc là, au lieu de la fête, c'est la tempête. Nos disciples qui rêvaient d'un avenir peut-être glorieux, qui étaient en train de se faire leur plan, tout d'un coup, ils se retrouvent sur la mer, sur le lac, hein, sur le lac de Galilée. Ils sont chahutés par les vagues et puis ils font du surplace. Le moment où Jésus intervient, c'est à la quatrième veille, nous dit le texte, c'est-à-dire entre 3h et 6h du matin. Donc il s'est passé un sacré bout de temps déjà où ils ont ramé littéralement, hein. Et voilà, donc au lieu de la gloire, de la victoire, de quelque chose de majestueux, ils se retrouvent tout d'un coup au milieu de l'épreuve, hein, sans transition comme ça, et sans que ça soit vraiment de leur faute au fond. Hein, c'est pas tellement eux qui ont choisi de se trouver dans cette situation-là. Et peut-être que ce genre de situation nous est familière aussi. Hein, ça nous arrive que tout d'un coup, sans qu'on comprenne trop ce qui se passe, on passe d'une situation où ça va bien, sans tout d'un coup une situation où on perd ce qu'on avait, puis c'est là qu'on se rend compte... de à quel point la situation qu'on avait avant était appréciable. Et puis on n'a pas forcément fait quelque chose pour, et tout d'un coup on passe de la multiplication des pains presque au lac de Galilée. Et c'est pas rare que dans nos propres vies des moments de victoire soient suivis par des moments comme ça de difficultés et d'épreuves. Et peut-être que c'est un moyen que Dieu utilise pour nous garder dans la dépendance et dans l'humilité. Moi, il y a quelque chose qui me frappe en tout cas dans ce texte. Et je vous propose de le regarder vous aussi, c'est au verset 22. Quel verbe est-ce que vous avez dans vos versions quand Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque? Hein, il y a plusieurs, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres versions. Il y en a où c'est marqué Jésus contraignit les disciples. Et c'est vraiment ça, je suis allé regarder dans ce que ça disait en grec, c'était Dieu, Jésus, les force à monter sur cette barque. Les disciples ne voulaient pas partir, ils voulaient profiter de cette situation qui leur semblait avantageuse. Jésus lui analysait la situation totalement différent. Il voyait un grand danger. Il disait, ils vont me forcer à devenir roi. Il force ses disciples à monter sur la barque. Il sait qu'ils vont avoir la tempête. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et ça, c'est une grande question. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il faut que Dieu nous fasse passer par la tempête pour qu'on apprenne? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Pourquoi est-ce que Dieu impose cette tempête à ses disciples? Il ne pouvait pas leur faire un petit cours sur qui il était, sur le fait qu'il maîtrisait aussi, qu'il savait marcher sur l'eau, sur le fait qu'il maîtrisait aussi les tempêtes, il pouvait les calmer. D'ailleurs, il leur a déjà montré. Peut-être qu'il pouvait leur expliquer qu'il était le fils de Dieu. Pas besoin de faire tout ça pour qu'à la fin, simplement, ils disent « Tu es vraiment le fils de Dieu ». Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il n'aurait pas pu leur apprendre autrement? Pourquoi? Et nous aussi, dans nos vies, dans les souffrances qu'on affronte, dans les tempêtes qu'on a affrontées avec l'Église, comme on disait, on est passé par quelques tempêtes ces derniers temps. Pourquoi ces tempêtes? Pourquoi? Voilà, moi, il y a plein de personnes que j'ai en tête, et je pense vous aussi, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi cette injustice? Pourquoi? Voilà quoi. Hein. Pour moi, c'est pourquoi est-ce que ma fiancée est décédée l'année passée? Pourquoi est-ce que... voilà, il y a Jacques Bican, je crois, dans une église sœur à Grasse. Pourquoi est-ce que ce père de famille est parti comme ça? Tempête terrible pour la famille. Pourquoi est-ce que Voilà, James Mayfair est parti dans des circonstances aussi qu'on aurait souhaité différentes. Pourquoi? Voilà, il y a beaucoup de pourquoi. Pourquoi est-ce que Emmanuelle Carré, au moment de se préparer pour se marier, on découvre qu'elle a un cancer, et puis voilà, maintenant ça va mieux, mais quand même, tous ces pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette tempête? Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse facile à ces questions-là. Pourquoi? Ce qu'on peut constater dans ce texte, c'est qu'en tout cas, les disciples ont appris quelque chose. La pédagogie de Dieu a fonctionné, en tout cas. Ils ont appris que Jésus ne les abandonne pas et qu'il veille sur eux, même quand ils sont dans la tempête et même quand ils ont l'impression qu'ils ne soucient plus d'eux, qu'il les a laissés sur la tempête, que lui, il est resté sur la terre ferme et qu'il les a abandonnés. En fait, il est vraiment là. Donc, ils ont appris quelque chose. Ils ont appris aussi quelque chose sur la grâce, sur le secours de Dieu, que quand Pierre l'appelle au secours, que Jésus vient le sauver. Ils ont appris quelque chose sur la puissance de Dieu aussi, visiblement. Et en parler, c'est pas la même chose que de le voir à l'œuvre, je pense. Pour nous, on en parle, là. Si on voyait Jésus marcher sur l'eau, si on le voyait calmer la tempête, je pense que la leçon serait différente. Et finalement, c'est au cours de cette nuit que l'ensemble des disciples, justement, à la fin de cette nuit, ils se prosternent devant Dieu et ils disent « Tu es vraiment, il y a l'accent sur ce mot, vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Il y a une conviction profonde, là, qui s'est faite à travers cette nuit. Donc, la pédagogie de Dieu a fonctionné. Dans une parabole un peu plus tôt, qui est bien connue aussi, c'est dans Matthieu 7, Jésus dit que les tempêtes sont des moments où on peut tester nos fondations et on peut voir si on a construit sur du roc ou sur du sable. Et au moment où la tempête arrive, c'est là qu'on voit. Tant que la tempête n'est pas là, on ne sait pas trop. Les tempêtes, c'est une occasion pour nous. Dieu sait hein, sur quoi on a construit. Mais nous, des fois, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et au moment des tempêtes, c'est l'occasion pour nous aussi de réaliser où est-ce que dans nos fondations, il y a du sable au lieu d'avoir du roc. Parce que souvent, c'est un mélange des deux aussi. C'est dans la tempête, finalement, qu'on voit ce qui est vraiment le centre de notre vie. C'est dans la tempête qu'on voit si on est prêt à suivre Dieu, même quand les choses ne se passent pas selon notre volonté, comme on voudrait que ça se passe d'après nous. Est-ce qu'on est toujours prêt à suivre Dieu? Si on n'est pas prêt à suivre au moment de la tempête, quand les choses ne tombent pas comme nous on le souhaiterait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu est vraiment Dieu dans ma vie? Est-ce que ça veut dire que je suis prêt à suivre uniquement quand les choses se passent comme ça m'arrange? Et dans ce cas-là, il n'est pas vraiment Dieu, c'est moi qui suis Dieu dans ma vie. Voilà, l'occasion de tester nos fondations. Est-ce qu'elles sont solides? Et ce que je crois, c'est que l'épreuve nous permet de révéler où on en est et d'y travailler, mais aussi, c'est important d'y travailler avant l'épreuve aussi. Et c'est important que vos piliers, vos fondations-là, elles soient en place. Parce que quand l'épreuve va arriver, si c'est du sable, ça va faire mal. Voilà. Alors, mettez les bonnes fondations. Si, je ne sais pas ce que 2011 va nous réserver. On ne sait pas. Et moi, je vous souhaite que plein de bonnes choses. Mais s'il y a une tempête qui arrive, que vos fondations soient en place. Il y a une fondation qui est absolument essentielle, sur laquelle j'aimerais m'attarder en fait un moment. Et vraiment, cette fondation, elle doit être en place avant que la tempête, elle arrive. Et c'est une chose, c'est une certitude qu'on doit avoir en nous, quelles que soient les circonstances de ce qu'on va traverser. C'est une certitude, et on l'a chanté tout à l'heure aussi. Parce que le danger, d'ailleurs, c'est un thème auquel le diable, si vous regardez bien, s'attaque tout au long de la Bible et dès la Genèse. Et le danger, c'est que quand on se pose ces pourquoi que je disais tout à l'heure, hein, pourquoi est-ce que ça arrive? Le danger, c'est qu'au nous, au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui se met à douter de l'amour de Dieu. Et on commence à dire, mais je ne suis pas sûr que Dieu soit vraiment bon. Je ne suis pas sûr que je puisse vraiment lui faire confiance. Sinon, comment est-ce que j'explique ça? Il pourrait me l'éviter, il me fait vivre ça. Est-ce que je crois vraiment qu'il est bon? Est-ce que je crois vraiment qu'il veut le meilleur pour moi? Est-ce que je crois vraiment qu'il est digne de confiance, même si les circonstances me montrent le contraire? Où je me dis, est-ce qu'il veut mon bien? Et puis, certains gens autour de nous diront peut-être, mais t'es fou de croire en Dieu. Un peu comme la femme de Job. Hein. Vous savez, la femme de Job qui dit à Job, maudit Dieu et meurt. Elle lui dit ça. Hein, parce qu'elle lui dit, mais regarde comment ton Dieu te traite, à qui tu faisais confiance. Ça va ou bien? Arrête de lui faire confiance, regarde, il t'aime pas. Ouais, c'est une expression suisse, ça. Et ouais. Elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Et puis nous, on est confrontés à ce doute aussi, au plus profond de nous-mêmes. Souvent, quand c'est là, on n'ose pas forcément se l'avouer, parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de dire « je doute que Jésus m'aime ». Mais au fond de nous, c'est ça. Si on n'arrive plus à faire confiance à Dieu, c'est ça, c'est qu'on se dit « mais il n'est pas vraiment digne de confiance ». Les disciples qui étaient sur la barque, imaginons un petit peu, ils devaient dire « ben, Jésus, il est bien gentil », parce que quand il y a la multiplication des pains, il est là, hein, c'est lui qui a tous les honneurs. Puis quand on est sur le lac, il est où Jésus? Et c'est lui qui nous a forcés à monter sur cette barque. Est-ce qu'on veut vraiment continuer à lui faire confiance, à ce gaillard, hein? Vous imaginez un petit peu? La foi, justement, que nous avons, c'est une foi qui nous demande de dépasser les circonstances immédiates qu'il y a autour de nous et de croire que, au-delà de cette tempête, il y a un Dieu qui est bon et qui nous aime profondément. Qu'il y a un Dieu qui veille sur nous, qu'il y a un Dieu qui nous voit. Dans le passage parallèle de cette tempête de Marc, il y a Jésus qui prie et qui voit les disciples dans la tempête. Il les voit, puis peut-être qu'on peut même imaginer qu'il prie pour eux. Jésus, il n'est pas absent dans ces moments-là. Il faut qu'on sache que Jésus nous aime malgré la tempête et qu'il est digne de confiance. Ça, c'est une fondation, un pilier essentiel. Et ça, il faut que ça soit en place avant que la tempête arrive. Parce que quand la tempête arrive, ce doute, il arrive. Et puis quand la tempête arrive, c'est la technique du diable aussi de vous faire croire que Dieu ne vous aime pas vraiment au fond. C'est aussi basique et aussi simple que ça. Et si votre confiance en Dieu, elle est là, et si vous dites « je sais que Dieu m'aime malgré ces circonstances », eh bien ça vous donnera aussi une assise pour ces situations-là qui est forte. Moi, je vous disais, c'est vrai que pour moi, j'étais assez ému en préparant ce message, parce que l'année passée, je suis passé par une grosse tempête, et je crois que c'est une tempête par laquelle l'Église aussi est passée, par laquelle vous avez souffert aussi avec nous. C'est effectivement ma fiancée qui est décédée d'un cancer. Et donc, ça a été une période extrêmement difficile. Mais pendant qu'on vivait cette période difficile et douloureuse, Dieu nous a donné cette certitude, et en particulier un verset, qui dit que Dieu nous aime et que rien ne nous séparera de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et pour nous, ça a été la fondation sur laquelle on a voulu vivre cette épreuve, et je crois que c'était une grâce que Dieu nous a fait de pouvoir avoir cette conviction, et c'était une grâce aussi, une réponse à beaucoup de vos prières, à beaucoup de prières, c'est qu'on n'a pas douté de l'amour de Dieu. Et ça nous a permis de voir les circonstances sous un œil vraiment différent, où on a vu, tout d'un coup on a vu à quel point Dieu nous aimait, à quel point il prenait soin de nous dans cette situation. Et puis on a vu comment jusqu'au moindre détail, il était présent, et qui nous a pas abandonné. Et ça nous a aussi permis de mettre notre énergie au bon endroit, au lieu d'avoir notre énergie concentrée sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? C'est pas juste, etc. On s'est concentré sur les choses importantes. Et les choses importantes, c'était pas le pourquoi, mais c'était de faire face à cette situation, de nous soutenir et de nous confier en Dieu, de nous laisser porter par lui. Alors voilà, les épreuves, c'est des moments clés qui nous invitent à nous positionner, et c'est des moments clés où on peut soit se rapprocher, soit s'éloigner de Dieu. Et la clé pour se rapprocher, c'est d'être renforcé encore dans la confiance qu'on lui porte. Et c'est important d'être prêt avant, et de démasquer ce mensonge quand il vient, parce qu'à un moment donné, quand on est dans l'épreuve, il vient ce mensonge qui vous fait croire que Dieu ne vous aime pas vraiment. Et là, il faut le démasquer, il faut dire non, c'est pas vrai. Et je refuse cette pensée. Maintenant, j'aimerais m'intéresser un petit peu plus à la question de savoir où trouver la force de faire face à la tempête. Et c'est le thème de la puissance. Et pour parler de ce thème de la puissance, j'aimerais d'abord vous expliquer un tout petit peu, vous aider à comprendre un petit peu la réaction de Pierre, qui est quand même étonnante dans ce passage. et qui peut peut-être être comprise à la lumière de un petit peu de ce que ça signifiait dans le temps de Jésus d'être un disciple. Alors, à l'époque de Jésus, il faut savoir qu'il y avait un système éducatif qui était assez sélectif chez les Juifs. Et dans un premier temps, on allait à l'école. C'était à l'âge de l'école, le Beth Sefer, hein, la maison du livre, où on apprenait la Torah. C'était à l'âge de 6 à 10 ans, grosso modo. Et les élèves, là, devaient en fait apprendre la Torah par cœur. Voilà. Donc, c'était comme ça qu'on apprenait hein, chez les Juifs. Donc, on apprenait les 5 premiers livres de la Bible par cœur. Et puis après, ceux qui étaient bons, ceux qui étaient les meilleurs, hein, les élèves les plus prometteurs, continuaient. Puis les autres rentraient à la maison, travaillaient dans le business parental, quoi, hein, familial. Et les autres continuaient. Et donc, ils entraient dans un second cycle d'études. Puis là, ils continuaient d'apprendre par cœur le reste de la Bible. Et puis, ils apprenaient un petit peu aussi, vous savez, ces joutes hein, qu'on fait, ces jeux de questions-réponses où un pose une question, l'autre répond par une autre question, faisant référence à un autre passage, etc. Et donc, ils s'exerçaient là-dedans. Et puis, les meilleurs des meilleurs, vers 13-14 ans, essayaient de se faire embaucher par un rabbi, si je peux dire. Donc, ils essayaient de trouver un maître qui les prendrait et qui leur enseignerait ce qu'il sait faire, qui leur enseignerait son enseignement, en fait. Et le rabbi les prendrait seulement à condition qu'il soit certain que ses disciples-là aient la carrure et les capacités de perpétuer son enseignement. Et de faire ce que lui faisait. C'est-à-dire, il voulait des gens qui soient capables de, hein, pour que ce que lui avait ne soit pas perdu, que ça soit transmis. Et donc, le disciple devait être... C'était un privilège hein, d'être un disciple. C'était le top du top du top. Et le rabbi les choisissait bien soigneusement. Et puis, une fois qu'il avait choisi son disciple, il disait, « Toi, suis-moi. » Hein, ça nous rappelle quelque chose. Ce qui est étonnant avec Christ, c'est quand on regarde la façon dont lui choisit les disciples. Parce que lui, il n'a pas choisi le top du top du top. C'est assez étonnant de voir comment il a choisi ses disciples. Il n'a pas choisi ceux qui sortaient de l'école talmudique, qui étaient les élèves les plus prometteurs du moment. Donc, il a une méthode qui est totalement inhabituelle pour un rabbi. Il choisit des pêcheurs. Et donc, quelquefois, bon, des pêcheurs et d'autres, hein, collecteurs d'impôts, ce qui est aussi tout aussi étonnant. Et donc, des fois, quand on lit ce passage hein, où ces disciples jettent leur filet, suivent Jésus, on est étonné, mais il faut savoir, pour eux, c'était un privilège quand même d'être appelé par un rabbi comme ça. Pour eux, c'était un sacré privilège, quoi, d'être élu, si on veut, par ce maître. Alors, pourquoi est-ce que Jésus, puis c'est là la question, pourquoi est-ce que Jésus choisit des disciples comme Pierre ou d'autres qui, a priori, n'était pas le top du top. Imaginez, vous êtes là, vous voulez lancer le christianisme. Hein, vous faites quoi? Vous choisissez quel disciple? Vous choisissez le meilleur, vous dites là, il faut une équipe solide. Hein. Et lui, il choisit ces 12-là pour perpétuer son enseignement si important, l'enseignement qui doit changer, hein, qui doit atteindre les extrémités de la terre. Il choisit ces 12-là. Est-ce que lui avait repéré chez ses disciples quelque chose que les autres n'avaient pas vu? Est-ce qu'en fait, c'était des gars monstrueusement puissants, mais ça ne se voyait pas comme ça? Moi, je crois pas. Moi, je crois que, en fait, comme souvent dans la Bible, Jésus choisit des gens. Il fait des choix étonnants quand il choisit ces gens pour que ça soit clair, que ce soit la puissance de Dieu qui agit et pas la puissance de l'individu. Quand vous pensez au choix, comment Dieu choisit des personnes pour un destin extraordinaire, souvent on est étonné. Les gens, à ce moment-là, ils auraient choisi quelqu'un d'autre. Samuel, quand il doit couronner le nouveau roi... Il dit, Seigneur, t'es sûr, David, là, le dernier, celui qui est en train de garder les moutons. Voilà, les choix de Dieu sont étonnants. Et moi, je crois que la raison, c'est parce qu'il veut que la puissance et la gloire reviennent clairement à Dieu. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 4, où il parle beaucoup, c'est une épître où il parle beaucoup de sa faiblesse et de la puissance de Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens 4, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Et je crois qu'il y a quelque chose de ça aussi. Alors, le rapport avec la tempête, c'est que dans la tempête aussi, ce n'est pas sur notre propre puissance qu'il faut s'appuyer, c'est sur la puissance de Dieu. Quand Pierre voit Jésus marcher sur les eaux, il réagit un petit peu comme un disciple. Hein. Il dit, « Si mon maître sait le faire, je veux le faire aussi, je veux qu'il m'apprenne. » Alors il dit, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir sur l'eau. Parce qu'il dit, ça fait partie de son quelque part du processus où il veut faire ce que son maître fait. Il veut reproduire ce que faisait son maître. Et là, moi, ce qui m'étonne, c'est que Jésus lui dit « Viens ». Parce que Jésus aurait pu lui dire « Tu te prends pour qui, là ?» Marcher sur l'eau, ça, c'est réservé au Fils de Dieu. Hein. c'est pas pour toi. Il aurait pu lui dire. Ou voilà, quoi, lui dire « Désolé, faut que tu progresses encore un petit peu plus tard. Quand tu auras progressé, tu pourras marcher sur l'eau. Quand tu auras atteint un statut un petit peu de rabbi. Hein. Pour l'instant, tu es un disciple. » Il lui dit « Viens sur l'eau. » Pourquoi ? Parce que il sait que par la puissance de Dieu, il peut faire marcher Pierre sur l'eau. C'est pas parce que Pierre a la force de marcher sur l'eau, lui, parce qu'il a atteint ce stade-là. C'est parce que si Dieu lui ordonne de venir, et si Pierre s'appuie et porté par la parole de Dieu, eh bien, il pourra marcher sur l'eau. Et c'est ce qui se passe. Pierre marche sur l'eau. Je trouve ça étonnant. Il y a un côté, je trouve même humoristique, dans le fait que Dieu fasse marcher Pierre sur l'eau. Pierre, en grec, c'est la même chose qu'en français. Hein. Normalement, ça coule. Voilà. Voilà. Bon. Ouais. Petros. Petros, qui est un jeu de mots avec Petra. Voilà. Normalement, ça... Ça flotte pas. C'est peut-être un clin d'œil, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais moi ça m'amusait en tout cas de réaliser ça. Et voilà, Pierre fait confiance, il sort de la barque, il met un pied devant l'autre, ça tient, il ne coule pas, il regarde à Jésus, et puis commence à se rendre compte que quand même il y a beaucoup de vent, il y a des vagues. Et puis là, il regarde un peu moins à Jésus, il regarde beaucoup les vagues, et puis il se dit mais... mes forces, elles vont pas suffire. Et il commence à se sentir dépassé. Et c'est comme s'il oublie qu'il est porté par Christ. C'est comme s'il oublie que c'est la puissance de Christ qu'il porte. Évidemment, ses forces, elles suffisent pas. Mais tout d'un coup, il dit, oulala, mes forces, ça va pas suffire, là, c'est trop. Puis il commence à couler. Il se souvient que Jésus est là, il dit, Jésus, viens m'aider. Et Jésus vient et il le sauve. Et Jésus lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il lui dit pas, pourquoi t'as douté de tes capacités? Il lui dit, pourquoi t'as douté de ma parole? Si je t'ai dit, viens, c'est parce que ça va tenir. Si je t'ai choisi comme disciple, Pierre, c'est parce que je crois que par la puissance de Dieu, tu peux faire ce que je fais aussi. Et par la suite, on sait que les disciples vont faire ce que Christ a fait. Ils vont faire ce que leur maître a fait. Ils vont guérir des malades, ils vont chasser des démons. Ils vont répandre la parole jusqu'aux extrémités de la terre, enfin de la terre de l'époque. Enfin, bon, Thomas a peut-être été jusqu'en Inde, selon certains. Et puis ils vont suivre aussi leur maître jusqu'au bout dans la mort, hein, puisque, sauf erreur, je crois qu'ils sont tous plus ou moins morts martyrs. Pierre, en tout cas, est mort martyr aussi. Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment est-ce que ces gens ordinaires sont arrivés à faire ces choses-là, sont arrivés à faire la même chose que leur maître? Jésus a réussi son pari, hein. Il a trouvé des disciples qui ont réussi à perpétuer ce que lui a fait et son enseignement par la puissance de Dieu, uniquement par la puissance de Dieu. Et c'est clair là, c'est clair quand on voit qui il a choisi, il a pris des gens ordinaires et puis il a agi avec puissance en eux. Il y a des moments où nous on est là dans la tempête, hein, et on sait que Jésus est là, mais on voit ces vagues, on voit nos forces et on se dit oh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire là, c'est trop pour moi. Puis on se sent dépassé, puis on commence à couler, puis on lutte, et puis on coule, puis on lutte, et puis il faut qu'on s'appuie sur la puissance de Christ. Évidemment qu'on est dépassé, évidemment que c'est trop dur à porter. Mais sachant que Christ est plus puissant que cette tempête. Et laissons-nous porter par lui. J'ai beaucoup d'exemples en tête de gens qui sont passés par des tempêtes. Et au moment où ils sont dans la tempête, ils ont un calme, ils ont une paix. Et puis les gens viennent leur parler, viennent les voir, puis leur disent mais comment ça se fait que vous êtes comme ça dans la tempête? Et puis ils disent ben c'est une paix que Dieu nous donne, voilà. Nous on est dépassés par cette situation, mais on sait que Dieu est là et qu'il nous porte. Et on lui fait confiance. Et c'est pas ça veut pas dire que c'est facile dans ce cas-là l'épreuve, mais simplement on peut être porté par Christ, voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nuits difficiles, qu'il n'y a pas l'angoisse, qu'il n'y a pas les pleurs, mais on est porté quand même par Christ. Et puis inversement, il y a des gens des fois, puis je pense que vous les avez sans doute vous aussi, où ils portent tout sur leurs propres épaules. ils portent cette souffrance, ils portent cette épreuve, ils portent cette tempête, et puis ils sont là, puis c'est dur, puis ils continuent, ils essayent, puis ils coulent. Et c'est un triste spectacle, puis c'est des gens qui refusent de déposer ça devant Dieu et lui dire, ouais, c'est trop lourd pour moi, porte, c'est toi qui dois me porter. Moi, je n'arrive pas à porter tout ça. Laissons-nous porter par Dieu et par sa puissance, pas par notre propre puissance. J'aimerais venir au troisième point. On a parlé de la bonté de Dieu, de la puissance et maintenant la grâce. Et le titre de cette partie, c'est « Le prix de la tempête apaisée ». Après l'épisode qu'on vient de parler, Pierre et Jésus montent sur la barque et le vent tombe. Le vent tomba. Dans l'Ancien Testament, il y a un autre personnage qui a apaisé une tempête et le parallèle est édifiant. J'en ai parlé tout à l'heure, je pense à Jonas. Alors je vous lis dans Jonas, hein, Jonas 1 et 2. L'équipage, vous connaissez l'histoire de Jonas, hein, Jonas, Dieu lui confie une mission, il se rebelle, il part à l'opposé, il se trouve sur un bateau, l'équipage accepte de le prendre avec lui, il y a une grosse tempête, et les gens se disent, mais pourquoi est-ce que ça nous arrive? Et là, ils réalisent qu'en fait, c'est une punition que Dieu leur impose, parce qu'il y a Jonas qui a désobéi et qu'il est avec eux sur le bateau. Et donc l'équipage dit à Jonas, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus démontée. Et il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Par la suite, Jonas sera délivré, et voilà ce qu'il dit. Dans un chant, dans un psaume qu'il compose, il dit à Dieu, « Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi, et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton temple. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. » Voilà ce que Jonas dit. Et plus tard, deux chapitres avant notre chapitre 14 dans Matthieu, Jésus fait un parallèle avec Jonas. Et il dit, vous avez ici plus que Jonas. Et il dit, il ne vous sera pas donné un autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Qu'est-ce que Matthieu est en train de dire là? Il fait un parallèle entre Jonas et Jésus. Il dit en fait que Jésus a été comme Jonas, balancé dans les flots pour apaiser la tempête. Pour calmer la tempête, dans l'histoire de Jonas, il a fallu jeter un homme par-dessus bord. Et cet homme, dans notre cas, dans le cas de notre tempête, c'est Jésus. C'est lui qui est passé par-dessus bord pour calmer la tempête. Pourquoi? Parce que nous aussi, on est sous le coup de la colère de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie des fois quand on est dans la tempête, qu'on est victime surtout si c'est une tempête injuste. On dit, Seigneur, rends-moi justice, rends justice. C'est dangereux hein, comme demande, parce que si Dieu rend justice, si Dieu nous donne vraiment ce qu'on mérite, ça ne serait pas forcément bon. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un Dieu parfaitement saint et à l'égard de qui on a tendance à être rebelle et à ne pas faire ce qu'il attend de nous, ce pourquoi il nous avait créés. Et c'est pour ça qu'il a fallu que quelqu'un d'autre prenne notre place et apaise cette tempête. Et Christ l'a fait librement pour que nous ne mourions pas, pour que nous ne subissions pas le jugement. Hein, je vous avais dit que la mer, c'était un symbole de jugement. Donc pour que ce ne soit pas nous qui passons sous l'eau, c'est lui qui l'a fait. Pour que ce ne soit pas Pierre qui coule, c'est lui qui a coulé à un moment donné quelque part, sur la croix. Et puis ce passage s'applique vraiment à lui, ce que dit Jonas, qu'il a été séparé de Dieu, je suis chassé loin de tes yeux. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. Si on y pense vraiment, je sais qu'on parle tout le temps de la mort de Christ, mais et c'est bien, c'est le corps de notre foi, mais quand on est dans la tempête, c'est l'occasion de souvenir ce que Dieu a subi comme tempête pour nous. Ce que Christ a subi comme tempête pour nous. Et de dire, mais c'est fou, il a fait ça pour moi. Moi, je subis une tempête, ça me fait mal. Il a subi une tempête encore plus lourde, tellement douloureuse, parce qu'il nous aimait. Et quand je suis dans la tempête, il faut que je me souvienne de ce que Christ a fait. Et c'est là que je puiserai aussi cette certitude que Dieu m'aime. C'est en me souvenant que Dieu a déjà prouvé son amour pour moi. On est là, on prie, on dit « Seigneur, si vraiment tu m'aimes, délivre-moi de cette tempête. » Mais Dieu a fait encore bien plus que ça. Il est mort pour nous. Et ça, il faut pas l'oublier. Il faut que ça soit bien présent quand on est dans la tempête. Et ça, c'est la preuve ultime que Dieu nous aime. Si on a des doutes, il faut qu'on revienne à la croix. Et comme Jésus, comme Jonas, Jésus passe 3 jours loin de Dieu, dans le séjour des morts, avant de ressusciter. Et Jésus a subi cette tempête pour nous, pour notre salut. Et le fait qu'on ait le salut, le fait qu'on ait une perspective aussi nouvelle avec la vie éternelle, ça c'est quelque chose aussi qui est un profond réconfort et une aide profonde, je crois, aussi dans la tempête. La puissance dont on parlait tout à l'heure, c'est ici la puissance de Dieu. Hein, c'est ici, je pense, qu'il la met en œuvre de façon la plus magnifique. C'est quand il nous sauve de la tempête qui devait retomber sur nous, qui la prend sur lui et qui nous accorde la vie éternelle auprès de lui. C'est encore plus fort que de faire marcher Pierre sur l'eau. Et puis cette perspective, c'est l'idée qu'un jour, eh bien, on aura aussi une vie où il n'y aura plus de tempête, parce que justement Christ a apaisé la tempête. Et c'est intéressant parce que j'ai remarqué dans Apocalypse, qui parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, il y a un verset qui dit que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer. Il n'y aura plus la thalassa. Voilà. Alors, il n'y aura plus la tempête. Il n'y aura plus cet endroit d'hostilité où on souffre, où notre foi est testée. Il n'y aura plus tout ça. Et le fait de savoir qu'on sera un jour dans cet endroit-là, c'est un réconfort puissant au moment de la tempête. Et il faut aussi avoir les yeux fixés sur cette réalité-là. Il y a un verset, moi, que j'aime bien, toujours dans 2 Corinthiens 4, c'est une épître que j'aime beaucoup, où Paul dit, alors qu'il traverse de nombreuses difficultés, Paul, de nombreuses tempêtes, au sens littéral et au sens figuré, et dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il voit sa souffrance présente aussi à la lumière du poids éternel de gloire qu'il aura. Et il dit, si mon être extérieur se détruit, c'est pas grave, parce que mon être intérieur devient de plus en plus fort. Et un jour, je serai auprès de Dieu. Et avec cet être intérieur et avec un être extérieur qui sera renouvelé, puisqu'on aura des corps ressuscités aussi après le jugement du monde. Lorsque ma fiancée Anna Maria était malade, elle avait son être extérieur qui se détériorait aussi, et c'était difficile de voir ça. Mais il se passait quelque chose au niveau de son être intérieur, parce qu'elle avait les yeux fixés sur le ciel de plus en plus à la fin. Et plus sa vie approchait de la fin, plus elle avait les yeux fixés sur le ciel. Et il y avait quelque chose d'étonnant, parce que d'un côté, elle allait vers ses derniers jours, et de l'autre côté, à l'intérieur, il y avait quelque chose de puissant aussi qui grandissait. Il y avait une foi qui était de plus en plus forte. Et c'était étonnant, quelque part, de voir que la mort, elle n'avait pas emprise sur ce qui se passait dans son être intérieur. Que là, il y avait quelque chose de plus fort, que la mort ne pouvait pas détruire et qui se poursuivrait après. Et c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Et les gens qui l'ont vu, le personnel médical, les gens étaient étonnés. Et de voir cette paix, de voir même cette joie. Et puis, quand les gens venaient la visiter et qu'elle leur a fait ses adieux, elle leur disait toujours, mais je vous attends au ciel maintenant. Et elle savait où elle allait. Et ça, c'est aussi pour les proches, pour les gens qui restent, un réconfort, une consolation incroyable. Voilà, comme j'ai perdu mon chronomètre, je sais pas dans quelle mesure j'ai encore là du temps, mais c'est pas grave. Mais non, je vous rassure, j'arrive à la conclusion. Et ce que je voulais simplement dire pour finir, c'est que vos fondations soient, que vos piliers, ces 3 piliers soient en place pour vous avant l'épreuve. Si vous êtes dans l'épreuve, identifiez les mensonges qui peuvent se présenter à vous et faites vraiment confiance à Dieu. Et les épreuves, ça peut être des occasions, soit de nous éloigner de Dieu, soit de nous renforcer vraiment dans notre confiance, notre amour pour lui, quand on voit qu'il est vraiment à l'œuvre, quand on voit qu'il est vraiment présent. Et ce que je souhaite, c'est qu'à la fin de ces épreuves, au sortir de la tempête, on puisse dire, comme les disciples, se prosterner devant Dieu et lui dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Amen.